Salut à tous, bienvenue dans Electric Troubles Radio Show sur MDM, émission numéro 1488, et en cette chouette semaine est sortie le fanzine Kavzik numéro 86, il a 27 ans, vous vous rendez compte, 27 ans, et comme j'en ai 54, je l'ai donc commencé à 27 ans. Ah, les doubles, c'est beau le double, il faut dire ce qui est aujourd'hui, donc une interview dans Electric Troubles Radio Show, White Wire, superbe disque, enfin disque pour l'instant, moi je ne l'ai entendu que sur internet, mais je pense que je vais me procurer le vinyle, ça envoie du pâté comme on dit. Et puis voilà, on se retrouvera tout à l'heure avec notre intervenant Charles Arthur, la semaine prochaine ce sera les Dirty Fonzie. Il faudra bien que je refasse finalement cette interview de Wonderflu que nous n'avions pas pu réaliser, c'était courant mois novembre. Et voilà, il y a des projets pour le fanzine Kavzik, vous avez la possibilité de le lire sur internet si ça vous intéresse ou de le commander. Voilà, si vous voulez le commander, vous me contactez par Facebook, j'imagine que vous, depuis toutes ces années, vous devez avoir l'un de mes contacts pour me contacter. Voilà, donc surtout n'hésitez pas, il y a 96 pages, il y a une trentaine d'illustrateurs, la thématique Let's Go Crazy, pardon. Il y a plusieurs interviews, notamment Fragile, les Doom Doom Lovers, il y a Seven Weeks, etc. etc. Donc le même principe que d'habitude, une multitude de chroniques. Voilà, vous avez peut-être pu voir circuler ça depuis lundi. Surtout, n'hésitez pas à partager. Ça nous sert à nous, ça nous fait plaisir à nous. Mais ça sert aussi les groupes et les acteurs du Fanzina qui sont chroniqués à l'intérieur. Voilà, on va donc commencer cette émission par Shake Before, formation espagnole, Shake Before You, je crois. Formation espagnole, donc Delicate Mask, c'est le titre du morceau, et Desertion, ou Desertion, ou Desert, je sais pas quoi. Vous le dites comme vous voulez. En tout cas, c'est parti pour un tour. Electric Troubles Radio Show, on se retrouve juste après avec notre intervenant issu du groupe White Wire.
What
Voilà donc un premier morceau dans l'émission Shake Before Use, pardon, formation espagnole, même si le nom ne s'y prête pas forcément. Nous sommes donc avec un intervenant du groupe White Wire, donc c'est Charles Arthur, c'est bien ça?
Je ne me suis pas trompé. C'est ça, exactement.
Voilà, donc on est là pour parler d'un disque que j'ai entendu moi sur Internet et que j'ai déjà chroniqué. Et comme je disais tout à l'heure, je pense que je vais essayer de récupérer la version vinyle très rapidement parce que le visuel est assez joli, on en parlera tout à l'heure. Alors, Charles Arthur, je voudrais que tu me parles de la création de ce projet. Ça date de quand? C'est parti sur quelle idée? Et qui?
Alors, dans White Wire, on est trois. Il y a Vincent à la batterie, Romain à la basse et moi à la guitare et au chant. Et avec Romain, ça fait maintenant plus d'une dizaine d'années qu'on fait de la musique ensemble. Et on a eu différents projets qu'on jamais trop réussi à tenir, qu'on a un peu périclité comme ça les uns après les autres. On a toujours cherché des batteurs pour remplacer le précédent. Et pardon, on était dans un style de musique, on va dire plus stoner, quoi, quelque chose d'un petit peu plus un peu plus lourd en, d'un point de vue sonore. Et on a rencontré Vincent et ça a été l'occasion aussi de revoir un petit peu la copie au niveau style et d'aller, disons, vers quelque chose qui nous était plus cher, quoi. C'est-à-dire quelque chose de plus punk, noisy, puis de, faut bien le dire aussi, référencé un peu dans les années 90, quoi.
D'accord. Donc, voilà. C'est pas uniquement lié à la culture musicale du nouvel arrivant.
Non, pas que. Enfin, lui, c'est plus sa culture, en effet. Et nous, on en avait un petit peu un ras-le-bol d'essayer de faire durer quelque chose qui définitivement voulait pas marcher, quoi. Donc voilà, on s'est plus penché vers un style comme celui-là.
Ouais, c'est pas forcément un style dans l'air du temps non plus. Que vous faites maintenant.
Pas spécialement, non, justement, mais plus. Ouais, pour nous, c'est plus. Comment je pourrais dire? Plus. Ça nous est plus cher, quoi. C'est plus nos racines, quoi. Enfin, voilà. On a tous la quarantaine, donc les années 90, c'est notre truc, quoi.
Tout à fait. Alors, si on devait définir. L'esprit musical de White Wire, qu'est-ce qui on citerait quoi comme groupe, comme famille d'affiliation, même si tu l'as un peu dit, mais spécifiquement des noms de groupes, je sais pas, des labels.
Alors globalement, on est tous à peu près fans. On a quelques groupes en commun. C'est vrai qu'on est un peu. On écoute tous un peu le même style de musique, mais sans être vraiment ultra fan de groupe. Alors moi, ça va être plus être Sonic Youth et Metz, grandement. Bon, c'est vrai. C'est vrai que Metz, on est un peu tous fans de ce groupe-là. Mmh. On aime bien aussi Future of the Left. Il y a des choses comme Meatwave, par exemple, qui peuvent nous toucher aussi. Un peu de toute cette obédience là, quoi, qui est plus vraiment punk, qui est pas vraiment trop noise non plus. C'est un peu on aime bien aussi tout ce qui est un peu post-punk. On est pas mal fan de Proto Martyr aussi, qui sont un petit peu plus calmes, on va dire, dans l'énergie. Donc voilà, toutes ces choses là, ouais.
D'accord. On va se passer un premier morceau de suite. Il s'agit de The Sound. Est-ce que tu as quelque chose à dire sur celui-là?
Non, bah, c'est un morceau assez... Dans les 10 morceaux qu'on a composés, je crois que ça a été un des morceaux les plus faciles qu'a coulé de source, ouais. Où il n'y a pas eu de débat sur est-ce qu'on change un truc, on modifie un truc ou quoi que ce soit. C'est, voilà, il coule de source. Je pense que c'est pour ça qu'on l'a choisi pour en faire une vidéo et comme single, on va dire, quoi.
D'accord. Eh bien, on se l'écoute et on se retrouve juste après. C'est parti. I'm gonna guide you. We'll be right back. Voilà, donc un premier morceau extrait de Crack Up, donc le nouvel album, enfin le premier album, puisque avant c'était un trois titres.
C'est ça, ouais.
Donc le titre du morceau, c'était The Sound. Alors, qu'est-ce que je voulais te demander ? Oui, depuis les débuts du groupe, il y a des personnes clés, je sais pas, des structures qui vous ont aidé à avancer un petit peu, à vous développer, ou c'est total do it yourself, on se démerde par soi-même et on a besoin de personne ?
Alors non, on est quand même bien aidé par la structure, l'association Mars en fait, qui gère la structure du Château d'Eau et les studios de répétition Pôle Nord. Donc ça c'est clair que ils nous soutiennent clairement depuis le début, et puis en nous produisant hein, principalement hein, ils nous offrent la possibilité de nous produire à intervalles assez réguliers, et puis on a pu aussi être soutenu par eux pour profiter du dispositif régional Propulsion. Et voilà, c'est un peu un soutien, on va dire, parfois de conseils aussi administratifs, si on veut essayer de profiter d'une subvention, si on veut profiter de locaux, etc.
D'accord. Ok.
Donc ouais, indéniablement, ouais, le Château d'Eau, c'est clair, ils sont là.
D'accord. Est-ce que tu peux revenir sur le trois titres, point fort, limite, s'il y en a.
On l'a enregistré relativement vite après la création du groupe. On était relativement motivés. Comme chacun sait, il y a eu après la pandémie et tout, ça a un petit peu ralenti tout le monde. Mais à ce moment-là, ouais, on voulait que ça aille assez vite. Donc c'est pour ça qu'on était parti sur trois titres, pas plus, parce qu'on avait peu de choses en stock à ce moment-là. Et puis, ça s'est fait avec un ami, avec Fred Norgay, qui a enregistré pas mal de choses renommées, hein, oui. entre les Burning, les Portobello et Sleepers, par exemple, pour ne citer que. Et voilà, c'est des morceaux, il y avait des choses relativement qui dataient, en fait, un peu.
Ah oui.
Qui datait d'un petit peu d'avant, et qu'on a mis vraiment en place tous les trois à ce moment-là, et puis on a essayé d'enregistrer, ouais, je crois, même pas à peine un an après la création du groupe.
Mais pourquoi tu dis qu'ils dataient d'avant ? C'est-à-dire ?
C'est des morceaux qui avaient déjà été pour certains composés avant.
Ah, pour d'autres projets ou ?
Non, j'avais de la matière.
Ah, alors, d'accord.
Du coup, c'est des morceaux qui se sont retrouvés travailler à ce moment-là et qu'on a remanié à nous trois.
D'accord. Alors l'élaboration des nouveaux morceaux là de l'album,
ouais.
L'album donc, ça date de quand ? Vous avez commencé après la pandémie ou vous avez commencé pendant
Alors
ça,
bah,
c'est quand même passé 5 ans depuis le EP.
Ouais. Alors pareil, il y a beaucoup de, je dirais la moitié des morceaux facile. Ouais. Ouais, on pourrait facilement parler de la moitié des morceaux qui était déjà là en fait depuis le début,
ouais.
Hein, qui était déjà même en gestation et en répétition lors de l'enregistrement de l'EP. Ouais. Et il y a eu donc ce gros coup de frein. Après, il a fallu s'y remettre, donc ça n'a pas été évident. On avait tous un peu nos hésitations. Mmh. Et après, jusqu'à l'enregistrement, on a composé encore deux morceaux qui sont Gimme et Leftover, qui sont vraiment arrivés très très peu de temps avant l'enregistrement. Donc moi, j'ai lu quelques trucs sur les chroniques qui ont pu être faites, et c'est vrai que j'ai vu pas mal de fois revenir le fait que c'était assez varié, qu'il y avait, un peu une identité à chaque morceau, et je pense que c'est dû à ça en fait. C'est que c'est des morceaux qui sont vraiment pour certains qui sont relativement récents, et puis d'autres qui sont au contraire qui datent de plusieurs années, et on a un peu compilé tout ça, puis on a fait notre LP.
D'accord. Alors est-ce que vous aviez est-ce qu'il y avait des choses que vous avez voulu modifier dans votre manière de faire, je sais pas, dans vos compositions? Est-ce que vous vouliez vraiment que ce soit différent d'avant, ou c'est un prolongement tout à fait normal?
Tu veux dire pour les derniers morceaux?
Ouais, pour les derniers, oui.
Bah, ça évolue avec. En fait, la plupart du temps, c'est moi qui compose les morceaux. Et je ramène ça en répète et puis on les met en place à trois et on y apporte des arrangements, des choses comme ça à trois. C'est surtout qu'au fur et à mesure qu'on compose, on va remarquer certaines choses et c'est là-dessus qu'on va essayer d'évoluer. Si on trouve par exemple que les rythmiques sont un peu tout le temps les mêmes, on va se concentrer à trouver quelque chose avec une rythmique différente, si c'est des tonalités, etc., etc., ou des durées de morceaux, ou voilà. Et on essaye d'être attentif à ces petits détails-là. Et ce qui me permet, moi, quand j'essaye de travailler chez moi et de d'écrire de nouvelles choses, de tenir compte, en fait, de ces points-là.
D'accord. Et pour les mots?
Pardon?
Pour les mots, comment ça se passe? Qui s'en occupe?
Les paroles, tu veux dire?
Oui, pardon.
Pareil, c'est moi qui écris aussi.
Ouais,
uniquement les textes,
toi. Ouais. D'accord. Ouais, donc, tu peux m'en parler, l'esprit, les thématiques. Est-ce que ces textes se posent après les lignes mélodiques ou. Voilà, je sais pas.
Alors, nous, ce qu'on fait souvent, c'est la musique et il y a en effet des mélodies qui viennent et après, faut mettre des mots dessus. Alors, on en parlait juste avant, par exemple, moi, là, j'essaye de. D'écrire des textes maintenant et après d'essayer de les mettre en musique. Ça permet de renverser un peu la façon de faire et de se renouveler un petit peu aussi.
C'est plus compliqué?
Oui, ouais. Surtout que j'ai pas du tout l'habitude de faire ça, ouais. et en effet, écrire un texte sans avoir vraiment un rythme des mots, c'est pas évident. Et c'est après, en ayant le texte, une fois qu'il ressemble à quelque chose, qu'on va essayer de lui donner un rythme, une mélodie. C'est moins évident, c'est clair. Ouais. Et pour les thématiques, après, voilà. Étant donné que j'écris les textes, moi dans mon passé, j'ai beaucoup écrit sur des choses qui pouvaient être d'ordre, on va dire, personnel. Et je tenais à essayer d'être un petit peu plus ouvert et un petit peu moins égocentré. Et donc du coup j'ai essayé de prendre différents sujets de de société, hein, si on veut, mais il y a pas mal de choses qui sont politiques, on va dire, d'ordre politique. C'est pour ça aussi que ça s'appelle Crack Up, hein. C'est après tout ce qu'on a, nous, tout ce qu'on a vécu, quand je dis nous, tout le monde, hein, le Covid, les gilets jaunes, la réforme des retraites récemment, tout ce qu'on peut accumuler d'absurde. La sensation d'avoir d'un point de vue médiatique, l'air ambiant est pas très respirable non plus. Quand on voit certaines personnes qui ont la parole et d'autres qui ne l'ont pas, voilà.
D'accord.
Donc ça tourne un petit peu autour de un petit peu tout ça, la réussite personnelle, les théories fumeuses, etc.
D'accord. Il y a un texte dont tu es le comment dire. Il y a un texte que tu préfères parmi tout cela, dans ces morceaux-là, sur cet album?
Pas forcément l'un plus qu'un autre, non.
D'accord. Et en termes de morceaux globalement, est-ce qu'il y en a un qui te fait frissonner plus quand tu le joues?
Oui, c'est Gimme.
Oui.
Parce que c'est un des plus récents, ouais. Ça reflète pas mal. Il reflète pas mal les évolutions qu'on a su faire au fur et à mesure en termes de composition. Ouais.
D'accord. Dis-moi, tiens, curiosité, pourquoi on met Pink Shirt en premier? Pourquoi on met She-Wolf en dernier?
Alors,
c'est une question que je me suis posée en regardant la liste tout à l'heure, comment on fait ses choix. Et puis après aussi, est-ce que tu pourras me dire s'il y a des morceaux stratégiques dans l'album, qui sont plus porteurs, parce que tout ça forcément c'est réfléchi, même s'ils sont différents comme tu l'as dit tout à l'heure.
Alors, bah, on a essayé de réfléchir par face, puisque à la base, on devait le
D'accord.
sortir qu'en vinyle. Et puis, on a eu quand même quelques sorties CD. On a essayé de réfléchir par face et de faire en sorte que les faces soient équilibrées, homogènes. Le choix de Pink Shirt, c'est parce que on trouve que c'était un des morceaux les plus efficaces. Donc, en termes d'énergie, de dynamique, de mélodie. Donc, pour rentrer de plein pied, on va dire, dans le disque. Et bah pareil, Gimme, on l'a mis aussi, on l'a mis en début de phase B parce qu'on trouvait que c'était un morceau aussi efficace. Après, un peu plus léché, on va dire, les arrangements. Donc, on s'était dit plutôt en début de phase B. Et on a voulu aussi finir la phase A par Leftover parce que c'était un moment d'accalmie. Et vu que ça reste quand même relativement dense comme musique, on ne voulait pas non plus abrutir l'auditeur. Et She Wolf, c'était l'idée de finir par un dernier morceau, on va dire, coup de poing, quoi. Un peu, voilà, un truc assez direct, franc du collier.
D'accord. Et il y a d'autres morceaux stratégiques?
Bah, on a mis notamment Johnny Gunn, qui est un morceau pareil, un peu plus long, un petit peu plus pareil, avec une structure un peu plus alambiquée, qui est en milieu de phase B pour
D'accord.
pareil amener une forme un peu d'apaisement dans le milieu de la phase B, quoi.
D'accord. On va s'écouter un deuxième morceau. Alors, évidemment, j'ai réagi de suite sur le titre. Atali, Teenage Riot. Belle idée.
Merci.
Quel est le lien entre Atali et Atari?
Alors, bah, c'était juste pour faire le jeu de
Jeu de
mots, puis je
mots.
trouvais qu'il y avait aussi comment dire, un énorme contraste entre un groupe comme Atari Teenage Riot, qui est à la limite de la révolution et quand même créer une émeute, si je dis pas de bêtises. Alors j'ai pas l'histoire, l'année, etc. Je crois que c'est à Berlin, un concert qui s'était passé en extérieur et où ça avait généré carrément une émeute. Et Atali, qui est juste le marionnettiste qu'on connaît, quoi. Donc je trouvais le contraste assez amusant. Et ouais, c'est un morceau qui cause un peu, justement, de réussite personnelle. On en parlait tout à l'heure. De ces gens qui placent leur réussite avant toute autre chose, un peu comme un caca nerveux d'enfant.
D'accord. Eh bien, on s'écoute à Atali, Teenage Riot, donc extrait de Rack Up de White Wire. C'est parti.
What kind of world?
Voilà donc un deuxième morceau de Whitewire, Atali, Teenage Riot. Donc, qu'est-ce que je voulais te demander ? Oui, tu l'évoquais tout à l'heure, studio Pôle Nord, c'est une obligation quand on est de Blois ? Ou c'est tellement facile parce que c'est tellement bien ?
Les deux, hein, c'est pour nous c'est tout proche, hein, forcément il y a une forme de facilité géographique, quoi. Mais on en parlait tout à l'heure quand j'ai cité Fred Norgay, mais bon bah c'est pareil, le nombre de groupes de cette époque, de la dernière moitié des années 90, groupes français noise qui sont passés par Pôle Nord, il y en a un paquet. Et donc on a la chance d'avoir aussi donc un studio qui est quand même relativement pointu tout proche de chez nous, quoi.
D'accord, mais c'est pas le même sondier là. C'est pas Fred Norgay là.
Non, c'est Sébastien Bedrine qui nous a enregistré pour le LP, ouais.
D'accord. Alors voilà. C'est qui ? Tu peux le présenter ?
Sébastien, il a été guitariste dans un groupe qui s'appelle Buried Option.
Ah d'accord.
Il est ingé son surtout. Dans les choses sur lesquelles il a pu travailler, je crois qu'il a travaillé avec les Burning aussi d'ailleurs.
Bah, de toute façon, Buried Option, c'était sorti sur Opposite.
Oui, c'était sur Opposite, exactement. Ouais, ouais. Et du coup, je crois qu'il a enregistré aussi Heavy Hearts ou des trucs comme ça. Voilà.
D'accord. C'est vous qui l'avez choisi ou c'est parce qu'il était sur place ?
Ouais, c'est un copain et moi j'avais déjà enregistré avec un précédent projet avec lui. D'accord. Pour un EP d'un projet qui s'appelle Black Flamingo. D'accord. Et on s'était super bien entendu. C'est un garçon très compétent et puis humainement, c'est parfait.
Alors, qu'est-ce qu'il vous a apporté, je sais pas, techniquement ? Est-ce qu'il apporte quelque chose de particulier ou c'est parce qu'il connaît bien ce style de musique ?
Complètement. Je dirais pas que c'est sa came complètement, ce côté un petit peu noise, mais il est tellement friand de son que non, avant même qu'on arrive en studio, il avait déjà des idées. Pour le traitement de la voix, la façon d'enregistrer, le son des guitares, le son de la basse, etc. Il a été force de proposition, ouais, carrément.
Alors s'il était de force de proposition comme tu dis, est-ce que il y a eu pas une petite confrontation, mais je sais pas une différence entre des idées que vous aviez avant et puis est-ce que lui il imaginait?
Non, parce qu'il a, il a bien pigé où allaient les chansons, quoi, où allaient les morceaux. Et donc après, ça a été plutôt une question de, on va dire, au mix, ça a été plus une question de dosage. C'est là qu'il y a eu des, on va dire, plus de négociations et de discussions. Mais sur les prises de son en elles-mêmes, non, c'était, ça a roulé, quoi, ça a été assez efficace, ouais.
D'accord.
Ouais, ouais.
Alors,
après,
justement...
c'est au mix, trouver les... Ouais.
Ouais, non, vas-y.
Non, je disais juste, voilà, après, c'était juste au mix qu'il fallait doser un peu au goût de tout le monde, les effets désirés, quoi.
D'accord. Alors, le résultat final, t'en penses quoi ? Et comment tu décrirais, toi, ce disque ?
Bah, moi, c'est ma première expérience hein, sur un projet aussi gros. Sinon, c'était tout le temps des EP avec, pas toujours des sorties physiques derrière. Donc là, il y a vraiment eu un processus de A à Z. Donc, j'ai pas trop de recul, mais en tout cas, nous, on est super, très agréablement surpris, ouais, du résultat, ouais.
D'accord. Ah, ouais.
Quand on a reçu les premiers mix, on était à se dire quand même que waouh, ça sonnait encore mieux que ce qu'on aurait pu imaginer. Ouais.
Alors, qu'est-ce que tu attends, toi, d'un disque comme ça, justement ? C'est quand même un sacré investissement, et derrière, il faut en faire quelque chose.
Ouais, pour nous, c'est de faire des dates avant toute chose. Hein. C'est de jouer, parce que ça dépend où on se place en tant que musicien. Nous, clairement, on a des boulots à côté. On n'envisage aucunement avec un projet comme ça de devenir professionnel. Donc, du coup, pour nous, l'objectif, c'est de faire des concerts. Et quand on se place comme ça, on va dire amateur, éclairé, on va dire, avec une volonté de faire beaucoup de concerts, il faut avoir... une forme d'actu, on va dire. Et c'est cette actu qui va te permettre de jouer. Donc nous, c'était l'objectif. Et puis il y avait aussi un objectif, comment dire, de plaisir et de découverte aussi, de se lancer dans un... Voilà, c'est quoi quand on passe 10 jours en studio, c'est quoi le processus derrière pour la pochette, c'est quoi le processus pour le mastering, c'est quoi le... Voilà, et de découvrir tout ça, c'est aussi une chouette aventure, quoi.
Et tu viens de citer le visuel. Alors, c'est chez Arrache-toi un œil, c'est ça?
Pardon, ouais, c'est Gaspard Le Quignot qui nous a fait le visuel chez Arrache-toi un œil.
C'est vous qui allez qui êtes allé le chercher?
Oui, tout à fait. Ouais. On était un peu bloqué sur le visuel, on n'avait pas énormément d'idées, puis surtout on avait des idées qui se confrontaient beaucoup. C'était vraiment source de conflits. Et en discutant un soir avec Romain chez lui, j'ai remarqué qu'il avait quand même pas mal d'affiches de posters d'Arrache-toi un œil. Ouais. Et puis bah là, je lui fais remarquer, je lui dis bah écoute, ça on est à peu près tous d'accord pour dire que c'est beau, que ça nous plaît. Donc on va envoyer un mail, on va bien voir ce qu'on nous répond, quoi.
D'accord. Et donc, il vous a fait une proposition ou vous en avez fait plusieurs?
Alors, il a voulu d'abord écouter la musique, se faire une idée, avoir une idée des textes, de ce que ça parlait, etc. Et puis, en effet, il y a eu deux propositions, je crois, au début, si je me souviens bien. Et on a opté plus pour celle du collage, un peu comme il y a, comme la pochette là. Et après, ça a été plus l'agencement des pièces et puis la déclinaison de la couleur.
D'accord.
Donc, discuter, quoi.
D'accord. Dis-moi, sur scène, White Wire, c'est comment? C'est explosif ou pas?
On essaye de l'être, on essaye de l'être. On essaye d'être représentatif de ce que l'on joue. C'est une musique qu'on estime assez tendue et assez énergique et assez frontale, donc on essaye d'être là.
D'accord. Est-ce que vous avez des covers en stock ou pas?
Eh ben non, ça c'est mon grand regret, parce que j'aimerais faire un morceau de reprise. C'est pas un exercice très simple. C'est pas un exercice facile. Enfin, c'est facile de reprendre un morceau, mais de lui donner une teinte plus personnelle, c'est un exercice assez compliqué. Donc pour ne rien cacher, je erre sur toutes les plateformes de streaming, et quand j'aurai des morceaux qui me plaisent bien, je les mets de côté. Donc j'ai toute une playlist à essayer d'explorer, mais non, jusqu'à maintenant, je crois qu'au tout début, on a dû jouer à une ou deux reprises, on a dû jouer Territorial Pissing de Nirvana.
Ouais.
Mais rien de, très honnêtement, rien d'original et rien de... Pas une proposition qui fait que le morceau soit plus cool ou différent.
D'accord. Qu'est-ce que je voulais te demander aussi? Comment on sort un disque, on est forcément plein d'espoir et d'envie pour le groupe, mais comment tu vois globalement le milieu de la musique en lien avec vos styles? Est-ce qu'il te semble encore dynamique, puisque tu as quand même un petit peu de bouteille? Ou est-ce qu'il te semble à bout de souffle?
C'est très compliqué. Ouais. Ça devient compliqué. Je trouve qu'il y a deux facteurs qui me sautent un peu au visage. Dans un style un peu punk, noisy, même avec des fois des styles un petit peu plus durs, on est quand même sur des gens qui ont au minimum 40 ans, je vois pas énormément de jeunes. Alors, même s'il y a bien sûr, il s'appelle Loons ou Dirty Clouds, je crois, de Rouen, qui sont des tout jeunes groupes. Alors, c'est vrai qu'ils ont entre 15 et 20 ans. Mais les acteurs de la scène, ça vieillit un petit peu. Nous, on le voit sur Blois. Le peu de choses qu'on a essayé d'organiser, on le voit avec des copains à Tours qui essayent d'organiser, c'est de plus en plus compliqué bah, de faire un concert dans un bar et de pas être embêté par un voisinage qui, dès 22h02, va appeler la police municipale, d'avoir une mairie compréhensive qui va essayer de soutenir. Enfin, et parfois, ça va être les bars en eux-mêmes qui vont, soit parce qu'en effet, ils ont des moyens hyper limités, soit parce que des fois, ils en ont totalement rien à faire. Te paye deux bières, un sandwich au pâté, et tu dois t'estimer content. Donc, avec tous ces paramètres-là, oui, c'est sûr que à l'heure actuelle, c'est. Alors, il y a toujours des orgas hein, pour se battre et vouloir faire des choses, mais j'ai le sentiment que ça va pas en s'améliorant, quoi. Ça devient d'accord. Un peu plus compliqué.
Bon, ouais. alors malgré tout, qu'est-ce qui se profile pour vous à l'horizon, là, dans les temps futurs? Qu'est-ce que vous allez faire?
Là, on a quelques dates qui sont programmées de manière assez éparse. On essaie d'en rajouter autant que possible. Là, on est en train de remettre déjà, de réécrire des nouveaux morceaux, mettre des nouveaux morceaux au point. Tranquillement préparer ça. On n'a pas vraiment de plan. Je pense qu'on n'a pas spécialement discuté, mais je pense qu'on serait tous là, pas dans l'immédiat, mais d'ici peut-être un an ou deux, c'est peut-être qu'on aura peut-être envie de refaire un autre disque. Je pense que c'est assez sûr. Mais à voir, voilà, comment les choses elles évoluent. Et comme je te l'ai dit, on a nos vies aussi à côté, étant donné que c'est pas un projet, on va dire, professionnalisant, quoi. D'accord. Donc voilà. Mais pour l'instant, c'est faire des concerts autant qu'on peut, profiter de découvrir des endroits et des gens à droite à gauche, et puis préparer tranquillement des nouveaux morceaux.
Ok, on va se quitter sur un dernier morceau, Handle with Violence. Tu peux me rappeler où on peut se procurer votre disque, enfin, s'il y a quelque chose en ligne pour
ouais,
le commun des mortels?
Il est disponible sur commande sur Bandcamp, sur notre Bandcamp, le Bandcamp de Whitewire. Et puis également chez tous les labels et puis sur les concerts.
Ah oui, parce qu'on l'a oublié de le dire, mais c'est vrai qu'il y a pas mal de labels. Tu peux les dire là si tu les as en tête?
Oui, bien sûr. Il y a Araki Records, Bigou Records, il y a Urgence Disc, Opposite Prod, Vox Project qui nous a énormément aidé, Pete Bish Records également.
Ça fait quand même du bon monde.
C'est vrai. Ouais. Et vraiment, grosse dédicace à Gab de Vox Project qui a vraiment tout géré et sans qui ça aurait été pas tout à fait possible.
D'accord.
Ça, faut le dire. Ouais.
Ok. Ben, on se quitte donc sur Handle with Violence. Merci à toi, Charles Arthur.
Merci.
Et puis, espérons un jour, même si Blois, c'est loin hein, quand même pour nous. Et on ne sait jamais. Peut-être qu'un jour, vous serez dans le coin.
J'espère bien.
Voilà.
J'espère bien. Merci.
Merci, salut.
Au revoir. I love your hair, I love your knees, I love your hips. I love the way your tongue moves around your lips. I love the shiny and the fancy stuff you wear. Can you please let me getting in there? I love the feeling I can possess you. Like my new car, I can buy you too. I've got muscles, some of them I admit. Nothing in my head, but in my hand, my day. I care. I care.
I love the way your screams twist your lips. Holding your ribs and bloody crosses. Don't ask me now to get out there.
À l'instant, la formation lilloise avec Fake Friends Don't Cry, extrait d'un disque sans titre de 2012. Encore une chose qui a vieilli, mais tout en n'ayant pas vieilli au niveau du son. On va se quitter donc dans Electric Trouble. C'est encore un grand merci, bien sûr, à ce cher Charles Arthur qui joue dans le groupe White Wire. Excellent groupe, superbe disque, superbe visuel. Donc il y a tout pour se le procurer. Et puis allez les voir en concert si vous êtes du côté de Blois, bien sûr, et puis suivez les dates, il y en a certainement quelques-unes qui tomberont et peut-être que vous ne serez pas loin. En tout cas, nous, on a aimé. On va se quitter sur Sports Bar et Spud Gun. Donc Sports Bar, la formation de Richmond aux USA. I was going to shave my beard but I took a nap instead. Voilà, merci pour le titre à rallonge. Et dans la foulée des Spud Gun de Bordeaux, Sandtown, Prozac, un des grands classiques de ce groupe, extrait d'un split avec qui se nommait Harry's Tales from the Split. Voilà, c'était sur le label, ça y est, j'ai perdu le nom, donc si vous retrouverez, vous retrouverez le disque aussi. Et quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine avec en interview les Dirty Fonzie. Voilà, donc ce sera certainement jus au téléphone. Allez, ciao, bye bye, et merci, et surtout propagez la bonne nouvelle, le rock'n'roll existe toujours.
sorry to be yourself. Cause I get off a man who's gonna tell me some bullshit. Cause I like some sort of bullseye guy. Stop, it's enough to me. This is the end, guy. Do it. I used to meet a man who looks like you. But that's a man who got nasty eyes. I'm not this kind of loser. No, I'm not. When you get happy, follow me. Speed on my back, then all. Cause I'm a Teflon man. Back it on, break it on you. That's why you gotta get this shit on my phone, please. Did you fuck it off it on? What could you do? How much I hate you, dude. You bastard, did you love it on? You gonna see this, man. Cause I'm a Teflon man. Back it up, break it on you. That's why you gonna get vicious on my fuck plate. Rock it on. I wanna see.